Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Kaká in percussione, Xhaka l'ingresso in aria ancora, Kaká davanti al portiere, Kaká, rete, 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 Kaká.
Pallone che arriva, Trezeguet, Toni! Pirlo ancora, Pirlo di tetto, tiro, gol! Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador, sei tutti noi Matador, ci prova con il destro, e la rete,
si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode 19 du podcast Calcio et Pépé. Comme chaque semaine, je suis à Guillaume Maillard-Passini. Salut Guillaume.
Salut Johan, salut à tous et toutes.
Alors un week-end particulièrement fou, hein, totalement même incompréhensible sur certains matchs et certains retournements de situation. Oui. Je te propose de faire un peu différemment des dernières semaines où on essayait de faire des thématiques sur certains joueurs ou de regrouper plusieurs matchs pour en tirer des angles. Là, on va revenir simplement sur la journée, détailler les matchs, puisqu'on a eu quand même beaucoup de matchs à suspense, on a eu des chocs, des contre-performances, beaucoup de buts. Donc on va simplement revenir match par match, et puis on va commencer par le dernier. On va faire ça un peu dans l'ordre inverse de d'habitude. On va commencer par le dernier match, qui était donc ce dimanche soir, le match nul entre le Milan et le Torino, 0-0. Le Milan avait l'occasion de faire un très beau coup, puisque la Lazio et la Roma n'avaient pas gagné, n'avaient simplement pris qu'un point. C'était la veille, c'était le samedi. Et puis résultat, patatras, c'est raté. Le bon coup, il n'a pas été fait par le Milan. Et tu voulais commencer par le problème d'attitude que tu as souligné tout au long de la soirée d'hier.
Je vois que tu me suis sur les réseaux sociaux. Et en plus, tu disais voilà par rapport aux équipes romaines, mais aussi par rapport à l'Inter, parce que Milan avait l'occasion de revenir à moins 1, oui. Donc ce qui n'était pas négligé. Donc oui, l'attitude, moi c'est plus comment ils sont rentrés dans le match, une première mi-temps très mauvaise. Je les ai sentis un peu bloqués, un peu... Oui, tactiquement, alors ils n'y étaient pas. Le milieu de terrain, Mazzarri, bon, voilà, on sait que tactiquement, il est très préparé. Mais avec son milieu à 5, alors il passait en 4-4-2 en phase de non-possession. Mais dans tous les cas, il dominait le milieu du Milan. malgré le fait que Bakayoko a encore fait un bon match, j'ai pas trop compris pourquoi Gattuso a pas vite réagi au fait que la supériorité numérique était, voilà, était aux yeux de tous. Donc c'est vrai qu'ils ont pris l'eau au milieu. Et dans l'attitude, que ce soit Souza, que voilà, qui a pas fait un bon match hier, Tianoublou a pas été bon non plus, mais ça, bon, c'est un peu notre dada à toi et moi, mais le fait qu'il joue à gauche, c'est un 4-4-2, c'est problématique. Et après, en deuxième mi-temps, bon, la donne a un peu changé dans les 10 dernières minutes où le Taureau, après avoir fait une bonne partie du match, de la domination, un peu calé physiquement, et l'entrée de Castillejo à la place de Çalhanoğlu a tout changé, même dans l'envie, dans la niaque. Et Milan a commencé à se réveiller, mais beaucoup trop tard. Cotrone a mangé le ballon du match, le ballon des 3 points. Mais est-ce qu'on peut lui en vouloir après tout ce qu'il a apporté? Je ne pense pas. Higuain, je pense que le prochain podcast, on fera un podcast entièrement sur lui. Ouais. Parce que ça commence à devenir problématique. Alors, Gattuso souligne souvent, et d'ailleurs il a souligné après le match, ses problèmes au dos. Il a dit qu'il s'était pas entraîné les deux derniers jours, enfin 2 jours avant le match, il s'est entraîné juste 2 jours du coup. Et c'est vrai que même, mais au-delà du physique, même dans l'attitude, il y a une espèce de nonchalance, on a l'impression qu'il est pas dedans, il est déconnecté. Et quand tu vois un mec comme Coutronné à côté, qui mange le terrain, qui voilà, a quelques lacunes techniques, mais dans l'envie, dans la combativité, il récupère 2 ballons à la hargne dès les 15 premières minutes, tu vois tout de suite la différence avec Higuain. Et c'est vrai qu'Higuain, il y a quand même un sacré problème au-delà de son attitude qui est, voilà, pas bonne. En plus, il s'intègre pas dans le jeu. Et voilà, hier, on l'a pas vu et ça devient compliqué. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que moi, c'est vraiment un cas qui m'interroge, Higuain.
On rappelle qu'il n'a marqué qu'un but depuis la mi-octobre. Donc, sur les 2 derniers mois en championnat, c'est 1 seul but. Ouais. C'était face à la Sampdoria. Il avait plutôt bien démarré au mois de septembre et puis début octobre. Mais depuis, la machine s'est un peu grippée. Il a été absent. Il a pris ce fameux carton rouge. C'était contre la Juve de mémoire, voilà.
Deux matchs.
Et puis il y a effectivement, alors au départ, on s'inquiétait du peu de ballons exploitables qui lui arrivaient, puisque il était un peu isolé. On militait d'ailleurs tous les deux pour un passage au 4-4-2 avec Coutronné, qui lui permettait de jouer en appui avec un joueur qui est très bon, notamment dans la prise de la profondeur, ou pour se démarquer vraiment dans le dos des défenseurs. Ça n'a pas changé finalement grand chose. Le jeu du Milan, il apparaît éminemment stérile. Oui. On le qualifiait de scolaire au début de saison. Là, on est passé de scolaire à stérile. C'est-à-dire que les joueurs ont le ballon, ne savent vraiment pas quoi en faire. Il n'y a pas vraiment d'idée, de changement de rythme. Le seul qui est capable de faire des changements de rythme, c'est Souza. Sauf que quand il est dans un jour sans, un peu comme hier, c'est toute la machine un peu de l'AC Milan qui se grippe. Et puis effectivement, il y a toujours cette question de Çalhanoğlu, qui n'est pas un joueur de débordement, qui n'est pas un joueur de côté. Casillero, c'est pas la première fois qu'il rentre et qu'il réalise.
Il a tout changé. Hein,
performance intéressante en entrant. Quand il a été titulaire, c'était un peu plus compliqué. Mais en entrant face à des défenses qui ont déjà beaucoup travaillé. C'est un joueur qui a une grosse explosivité, une belle pointe de vitesse, donc il peut changer les choses. Maintenant, le problème, c'est qu'on a l'impression que Gattuso a un peu essayé, on va pas dire un peu tout d'un point de vue tactique, mais quand même pas mal de choses. On se demande sur quel levier il va pouvoir s'appuyer pour inverser la tendance des mauvais résultats, parce qu'on peut pas dire que Milan fait des mauvais résultats, mais en termes de prestations, en tout cas, c'est assez inquiétant.
Alors, c'est ce que je répète souvent. Alors évidemment, les stats de Gattuso parlent d'elles-mêmes. Moi, j'ai rien contre lui. Encore une fois, j'ai des doutes, ça c'est vrai. Quand on me dit voilà, sur l'année 2018, il est troisième, c'est vrai, c'est un fait. Ça se dit part pour lui. Après, il faut faire une différence entre la performance et le contenu. Le contenu, pour moi, il reste douteux. J'ai vraiment du mal à avoir des progrès dans le jeu. Comme tu disais, c'est stérile. Avant, c'était scolaire. C'est vrai que cette possession de balle horizontale qui ne sert quasiment à rien parce que les équipes ont le temps d'attendre, de se regrouper. Et le problème, c'est que, comme tu l'as dit, si Souza n'est pas dans un bon soir, toute la fantaisie ou le peu de fantaisie que tu as, eh ben, elle disparaît. Alors, on me dit, ils sont quatrième, c'est vrai, ils sont quatrième, ils ont un point d'avance sur la Lazio, donc, en soi, au classement, il y a pas de panique. On rappelle que si on recontextualise, ils ont beaucoup de blessés. Parce que, bon, Abate en défense centrale, une grosse surprise, fait 3 matchs, qui fait 3 bons matchs. Alors, faut croire qu'à 32 ans, c'est découvert une voie. Ça, c'est
après le, ouais, oui, c'est sûr, c'est sûr.
Et hier, il a quand même mangé Belotti. Bon, il a mangé. Il a quand même dominé Belotti pendant une bonne partie du match avec un carton jaune, donc c'est pas négligeable. Mais c'est vrai qu'il fait des bonnes prestations. Donc bon, écoute, à suivre. Mais donc quand on dit qu'ils sont quatrième, tout à l'heure, je suis allé voilà, feuilleter la Gazzetta. C'est vrai que, comme je te disais tout à l'heure en off, si tu compares les autres équipes, Milan est quatrième aussi du fait du peu de rendement des autres. Parce que par exemple, l'Inter, alors on pourrait croire qu'ils font un gros début de saison. Alors, ils ont quand même 10 points de moins que l'année dernière. Alors, on se rappelle que l'année dernière, ils avaient carburé très fort au début. Ils avaient ralenti beaucoup en deuxième partie de saison. La Roma, ils ont moins 14 points. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure du cas de la Roma. La Lazio, ils ont moins 7 points. Le Napoli a moins 3 points, par exemple. Donc, c'est vrai que 6 millions en quatrième, c'est aussi dû au manque de performance des autres équipes, que ce soit la Roma ou la Lazio, surtout après ce week-end de là. C'est vrai que voilà, c'est aussi dû à ça. Donc, si je veux pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, moi, dans le jeu, j'ai vraiment du mal à avoir des progrès. Alors, je prends en compte les blessés et le reste, c'est évident. Après, même, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais avec les titulaires, c'est pas qu'on avait vu beaucoup, beaucoup plus de jeux ces derniers mois.
Non.
Et d'ailleurs, Christophe m'avait bien expliqué. Gattuso peut avoir aussi des bonnes idées. Le problème, c'est que il y a des joueurs qui peuvent peut-être pas les mettre en pratique. Et moi, je trouve qu'il y a une mentalité des fois un peu frileuse. On le voit souvent dans les grands matchs. Et c'est vrai que bon, dans le jeu, moi, j'ai toujours eu du mal à avoir des progrès.
Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais en fait, je trouve qu'il y a une espèce de constante en termes de jeu entre Gattuso, Inzaghi, qui avait fait aussi un passage, et Seedorf. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose. En fait, on n'arrive pas à déterminer ce que les entraîneurs veulent faire. Je pense qu'il y a quand même des joueurs suffisamment bons, et on voit des petites équipes avec des joueurs bien moins bons qui arrivent à avoir un style de jeu, une idée précise, et des références en termes de jeu, en termes de schéma, en termes d'organisation, en termes de construction, en termes de défense, des choses très précises. Et là, Milan, avec ses trois entraîneurs, trois anciennes gloires d'ailleurs du club. Alors, est-ce qu'ils sont trop jeunes, pas assez expérimentés? Est-ce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de voir assez de choses, de se confronter, voilà, à différents types d'entraîneurs, etc., etc. J'ai du mal à avoir l'explication. Je pense que ça en fait partie. Mais je trouve, en voyant Gattuso, j'ai l'impression de revoir le Milan d'Inzaghi et le Milan de Seedorf.
Mais c'est vrai que Gattuso a des idées, ça c'est, on peut pas lui enlever. Après, moi, oui, comme tu dis, après, regarde, si tu regardes la carrière de Seedorf, elle a pas décollé en tant qu'entraîneur. La carrière d'Inzaghi, là, il est à Bologne, mais on va dire qu'il tient sur un fil. Et encore, il pourrait se faire virer dans les prochaines semaines. Le René du sort, Bologne reçoit Milan.
Oui.
Mardi prochain, donc ça serait quand même le comble que Milan fasse virer son ancien attaquant. Mais oui, je suis aussi d'accord avec toi. Après, il y a quand même eu des périodes très très noires avec l'Inzaghi de Milan et avec le Milan d'Inzaghi et de Seedorf, c'était vraiment trouble. Il y avait des joueurs quand même, la charnière Raheem Mexès, c'était quand même tout un art.
Mais justement, Gattuso a des joueurs qui sont vraiment plus performants, tu vois.
Mais exactement. Après, dans le, pour moi, l'effet, par exemple, si tu prends l'effectif intrinsèque de Milan, si tu me le mets sur un papier, par exemple, je préfère celui de la Lazio. Alors peut-être que d'autres seront pas d'accord, mais moi, si tu me mets sur deux feuilles, l'une à côté de l'autre, l'effectif de la Lazio, l'effectif de Milan, je prendrais celui de Milan. Mais c'est vrai que dans le jeu, comme tu dis, moi j'ai du mal à avoir sa patte. Alors, ce qui est le comble de la chose, c'est que beaucoup voient Gattuso comme un guerrier, ce qu'il était, c'est vrai, comme quelqu'un qui a de la hargne. Ce qu'on va lui reprocher, c'est son caractère. Il a créé un groupe, c'est un groupe compact, c'est un groupe qui vit bien, ça c'est un fait. Dans le jeu, c'est vrai que moi j'ai du mal à avoir des progrès depuis qu'il est là. Les résultats sont là, mais j'ai pas envie que le contenant cache le contenu, parce que c'est, il y a vraiment quelque chose qui me, je sais pas, qui me bloque. Dans la marge de manœuvre, dans le, comme tu dis, l'effectif est bon, et j'ai du mal à avoir une trame de jeu. Ça progresse pas. Alors certes, ils sont quatrième, mais je sais pas. Moi, j'ai quand même des gros doutes. Milan va quand même d'année assez sombre. Je sais pas. Moi, je pense qu'un entraîneur confirmé. Alors évidemment que le nom de Conte revient souvent. Mais c'est vrai que je pense qu'après avoir des années où ils ont tenté monter là, qui n'a pas de boulot aujourd'hui, parce que voilà, il se fait virer de Séville, Mianovic, pas de boulot, Seedorf, sélectionneur de la Côte d'Ivoire, si je ne m'abuse.
Du Cameroun.
Inzaghi à Bologne, et comment dire, c'est sur un fil. Donc si tu vois, il y a une constante. Et si je te demande le dernier grand coach du Milan, tu me dirais qui? Allegri.
Oui, Allegri, qui n'était pas encore l'Allegri de la Juve aujourd'hui. Donc,
exactement. Donc, on est d'accord que ces dernières années, ça fait bien 7, 8, 9 ans que Milan n'a pas eu un grand coach.
Oui.
Un coach, voilà, un coach renommé, quelqu'un vraiment qui tu sens que ça peut aller bien. Et par exemple, l'Inter est sorti ces années de galère aussi grâce à Spalletti. Ouais. Alors, c'est pas un entraîneur exceptionnel, mais c'est un très bon entraîneur.
Et Naples était allé chercher Benitez, était là et allé chercher Ancelotti.
Exactement. Et le médicament de l'Inter, ça a été ce fameux match à Rome contre la Lazio l'année dernière. Ils se sont qualifiés. Et à partir de là, on voit bien que cette année, ça va beaucoup mieux. C'est un club quand même qui progresse et qui est vraiment sur la voie de la guérison après des années sombres. Milan, on a quand même du mal à voir le bout du tunnel. Donc, écoute, on verra bien la suite. Mais c'est vrai que les doutes concernant Gattuso restent, même si le classement, pour le moment, sourit à peu près.
Alors, ce match un peu tristoun quand même entre le Milan et le Torino, match sans but. On va passer à un match avec beaucoup de buts, un autre match nul. C'était dimanche à l'heure du repas entre Sassuolo et la Fiorentina. Un match nul 3 partout. Et
tu t'es régalé.
Ah, en fait, j'ai eu très peur parce qu'on l'avait très bien vendu, voire un peu survendu la semaine dernière dans le podcast.
Tu l'avais très bien survendu.
Oui, c'est vrai. Je ne te mets pas là-dedans. Je l'avais un peu survendu. Et en fait, la première mi-temps était tout simplement catastrophique. Il s'est à peu près rien passé. Deux équipes vraiment empruntées, très peu de situations d'occasion, d'opportunités de marquer, même dans le jeu, beaucoup de passes ratées, de ballons rendus à l'adversaire hyper rapidement. Enfin bref, c'était vraiment assez vilain. Et puis une deuxième mi-temps, même on va plutôt dire une dernière demi-heure complètement folle. Là pour le coup, quand on est supporter d'aucune des deux équipes et même pas forcément un passionné dingue de Serie A, c'est un genre de match qui s'emballe d'un seul coup et qui te tient en haleine jusqu'à la fin. Je vais pas refaire le scénario, hein, mais le Sassuolo menait quand même 3-1 avant de concéder le match nul. Alors ce que je retiens de ce match-là, plusieurs choses. La première, c'est le choix très clair de Pioli, que j'ai trouvé en début de match, avec Chiesa et Simone sur le banc. On en avait parlé lors du dernier podcast, il me semble, que j'avais fait un focus sur la Fiorentina et sur le fait que, ou il y a deux podcasts, je sais plus, sur le fait que Chiesa et Simone ne marquaient plus. En plus, leur performance était vraiment très en deçà de ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils faisaient l'année dernière. Et là, Pioli a fait un choix fort en les mettant sur le banc.
La première n'était pas trop bien. Hein.
Ouais,
il était aussi un peu amoindri.
Un peu amoindri, mais le fait est qu'il l'a fait rentrer dès le début de la seconde mi-temps parce qu'il a bien vu que c'était très compliqué sans lui et que la Fiorentina ne se crée aucune occasion. Soit dit en passant, il s'en crée assez peu aussi dernièrement avec Chiesa, mais soit. C'est quand même un joueur qui a plus de références que Piazza, dont je me demande vraiment à quoi va ressembler sa saison parce que pour le moment c'est très compliqué. La Fiorentina, j'ai trouvé ça donc encore une fois très pauvre dans le jeu. Par contre, j'ai bien aimé leur réaction dans les 15 dernières minutes, une fois qu'ils ont été menés 3-1, avec un Jordan Veretout assez intéressant et au départ de toutes les actions. Vraiment, je trouve cette saison, s'il faut en sauver 2-3 à la Fiorentina, il y a évidemment Milenkovic que j'aime beaucoup, même s'il fait expulser pour une réaction d'humeur lors de ce match, en toute fin de match. Il y a Jordan Veretout. Et puis aussi Benassi, qui même s'il manque un peu de caractère, marque quand même pas mal de buts. Donc j'étais assez déçu de la performance de la Fiorentina. Je me pose toujours les mêmes questions d'ailleurs. Ça ne change pas. Et par contre, il y a des choses encore que j'ai beaucoup aimées du côté de Sassuolo. Mais ça, c'est une constante aussi depuis le début de saison. Et notamment le milieu de terrain, Sensi, Duncan, Bourabia, que j'ai trouvé encore une fois vraiment au-dessus, et pourtant il y a quand même des clients en face, hein, parce que Benassi, Veretout, et c'était Edmilson, je crois, l'autre joueur de la Fiorentina, il y a quand même des clients, mais eux, ils ont fait vraiment un match, alors surtout Sensi et Duncan,
Sensi est très intéressant.
Et Duncan aussi, Bourabia a été aussi intéressant, mais d'ailleurs Duncan et Sensi marquent un but, tous les deux marquent d'une superbe frappe, enfin de deux frappes du coup. Vraiment dans des... Alors, Duncan c'est quasiment en lucarne et puis Sensi c'est au ras du poteau. Mais voilà, c'est un milieu de terrain qui a été encore hyper intéressant, qui risque d'animer évidemment le mercato dans les prochaines semaines aussi. Et c'est un milieu de terrain qui abat un travail monstre.
Ce qui est dommage avec Sassuolo pour aller un peu à contre-courant, c'est... D'ailleurs, De Zerbi l'a souligné à la fin, c'est aussi la naïveté.
Bien sûr.
Tu l'avais souligné il y a plusieurs podcasts où vous avez dit que voilà, c'est une équipe aussi naïve. Et c'est vrai qu'à la fin, bon, quand tu gagnes 3-1 à si peu de la fin, t'as pas le droit. Encore une fois, tu te fais égaliser par un but de Miralas sur une action toute bête. Comme disait Zervi, ils auraient pu faire faute, ils auraient pu, malin, avec plus d'expérience, tu te le prends pas le but là.
Surtout la balle part d'un contre très mal joué.
Oui.
Par Berardi de mémoire qui essaye de filer tout droit. Il me semble que c'est
exactement.
Lui. Mais ils ont gâché un nombre de d'opportunités en contre-attaque à la fin du match avec une entrée notamment cataclysmique de Matri. Mais ça c'est aussi une Matri, constante pour ouais. le coup. C'est un mot qui va revenir constante aujourd'hui, j'ai l'impression. Mais voilà, Matri, c'est fini hein, le foot de haut niveau.
Ça pourrait faire une chanson. Après Capri, Matri, c'est fini. C'est...
Oui, tu veux nous interpréter les premières notes?
Matri, c'est fini. Voilà.
Magnifique. Tu as une voix absolument splendide.
Je t'en prie.
mais voilà, effectivement, c'est une équipe naïve. Moi, vraiment, où j'ai un exemple en tête, c'est Rogério, qui est l'arrière gauche de cette équipe, qui est assez intéressant, mais pour le coup, qui manque quand même de pas mal de choses sur le plan défensif. Là, il y a eu deux centres à l'opposé, donc qui venait de l'arrière-gauche de la Fiorentina, il ne sait pas défendre et se positionner sur un centre à l'opposé. C'est dramatique. Une fois, ça fait but. Enfin, ça amène l'occasion du but avec la frappe de... Ça doit être Edmilson sur le poteau et qui rebondit dans les pieds de Simeone qui peut marquer. Et puis, une deuxième fois, ça fait une grosse occasion pour la Fiorentina. Enfin, c'est des choses vraiment pourtant basiques, hein, savoir défendre sur un centre opposé, comment se placer, comment placer son corps par rapport à l'adversaire. Enfin, c'est des choses.
Et Sassuolo qui gagne depuis 2 mois maintenant, hein, ça commence à faire aussi, hein, malgré le fait que dans le jeu il y a toujours des belles choses, c'est vrai qu'il gagne depuis 2 mois et tu le disais, Zerbi l'a répété, c'est que voilà, il y a un manque d'expérience, ils ont du mal aussi à lire le match. Il y a des fois où ils doivent plus se calmer, ils doivent plus se gérer. Et c'est vrai que dans ce moment-là, t'as aussi besoin de joueurs d'expérience qui peuvent te faire la faute qu'il faut. Et malheureusement, voilà, leur naïveté a encore payé, a encore été sanctionnée dimanche. Donc, c'est vrai que ça fait 2 mois qu'ils gagnent plus.
Non, ça fait, après, je me permets de te corriger, hein, ça fait 1 mois. La dernière victoire, c'était le 4 novembre, sur la pelouse du Kiev. Oui, le fameux match.
Et pour revenir à la Fiorentina, de ce que je disais aujourd'hui, même pour Pioli, ça commence un peu à être compliqué. On a parlé la semaine dernière, les tifosi ont protesté, et les propriétaires, les Laval, qui sont souvent protestés d'ailleurs à Florence, et Pioli, qui lui, pour le coup, gagne plus depuis un sacré bout de temps. Donc la chance qu'ils ont, on en parlait tout à l'heure en off, c'est que devant, ça avance pas beaucoup. C'est que la Fiorentina est toujours dans le coup aussi pour les places européennes. Donc c'est une chance pour elle, mais le problème c'est que dans le jeu, et tu l'as souligné, dans le jeu on voit beaucoup de progrès. Alors Simeone a marqué, et je crois que ça faisait plus de 500 minutes qu'il marquait plus.
Donc voilà, c'est peut-être moins de 2 mois ou un peu plus de 2 mois, je crois.
Donc ça faisait longtemps qu'il marquait plus et bon, il s'est débloqué. Mais c'est vrai que dans le jeu et dans les occasions, ça reste quand même très compliqué. Et, malgré des choix forts, comme tu as dit, bon, à la mi-temps, on a vite corrigé le tir. Mais c'est vrai que la Fiorentina, dans le jeu, ça commence à être pénible. Et il faut que Pioli fasse attention parce que ça risque d'être compliqué pour les semaines à venir s'il ne change pas de cap.
Alors, un petit laïus sur ce que tu as dit au niveau des Laval et qui sont très critiqués. Bon, on sait que Florence, c'est une place un peu particulière, hein, une ville très bourgeoise. La grandeur du passé, il se réfère d'ailleurs un peu trop à ça. Et vraiment, des fois je le compare un peu à la Roma, c'est qu'ils oublient un peu où est leur place dans le football italien aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils voudraient être la Juve bis, et c'est pas possible à Florence d'être la Juve bis. Alors je conçois qu'il y ait certaines critiques sur le fait que les Della Valle vendent beaucoup de joueurs chaque année, etc. Là, faut pas oublier que cette saison, justement, ils ont fait le choix de ne pas vendre Chiesa et Simeone.
Oui.
Donc ils ont une équipe qui est quand même assez compétitive, je trouve, avec un banc quand même où il y a des joueurs intéressants. Donc voilà, que les tifosi contestent l'entraîneur et les joueurs, pourquoi pas, les présidents, bon, on sait qu'en Italie...
Et Pioli, tu dirais quoi? Tu vois, avec l'effectif qu'il a, on est d'accord qu'il pourrait quand même faire
il
un
peut
peu
faire
plus.
Mieux, oui.
Ouais.
Bah, comme d'autres cette saison, on va passer à la Roma dans quelques secondes, mais... c'est des effectifs quand même qui sont bien meilleurs que ce qu'on voit depuis le début de la saison. Il y a quand même un 11. Alors certes, il est très jeune et inexpérimenté, ça c'est évidemment problématique. mais il y a quand même de quoi faire mieux à la fois dans le jeu et dans les résultats. Et donc voilà, que Pioli soit contesté, pourquoi pas. Après, même on peut leur poser une question aussi, hein, pour mettre qui. Bon, question se pose aussi évidemment, et la question se pose aussi pour la Roma, puisqu'on va partir sur le club romain maintenant. Alors, un nouveau faux pas face à une petite équipe, hein, j'avais fait le compte la semaine dernière, et ça ne s'arrête pas, les points perdus face aux petites équipes. On doit être à 11 points maintenant, je crois, de mémoire, perdus face à l'Udinese et le Chievo, la Spal, voilà, Bologne, et puis maintenant Cagliari. Alors, avant de revenir sur... Qu'est-ce qu'il y a?
De quelle manière?
Oui, de quelle manière. Donc, avant de revenir sur les conséquences, on va quand même parler du match. Alors, plusieurs choses à retenir. Moi, ce qui m'a vraiment catastrophé pour Di Francesco, c'est que les défenseurs ne savent pas gérer un ballon dans la profondeur ou par-dessus la défense. Et ça, je trouve, à ce niveau-là, c'est quand même très problématique. Alors, certes, il y avait du vent. Ok, il y avait un vent très fort. Donc, les trajectoires étaient pas simples.
Mais les vents de Sardaigne.
Voilà, tu dois t'y habituer quand même au bout d'un moment. Et tu peux pas faire 90 minutes, avoir passé des missiles au-dessus de toi et à ne pas savoir défendre. C'était vraiment... Alors Cagliari a passé tout le match à faire ça. Hein. C'est vraiment... c'était une tactique et une seule. On rappelle quand même qu'il n'y avait pas Barella, qui ne jouait pas, et qu'il n'y avait pas Pavoletti en attaque. Donc c'est en plus un Cagliari amoindri, entre guillemets. Parce que deux des joueurs les plus importants cette saison n'étaient pas là. Mais voilà, ça, j'ai du mal à me l'expliquer, comment des joueurs comme Fazio et Manolas soit incapable sur ce match-là de gérer la profondeur. Dans les points positifs, Robin Olsen, qui a fait encore deux grosses parades, et puis des arrêts aussi sur des frappes de loin. Lui, c'est voilà, il a eu 3-4 matchs compliqués au départ, et puis maintenant il s'impose vraiment comme un gardien, on va dire fiable, et qui donne de plus en plus de sécurité à ses défenseurs. C'est plutôt l'inverse maintenant, c'est les défenseurs qui donnent plus vraiment de sécurité à leurs gardiens, et le rapport de force s'est un peu inversé. Et puis, troisième chose vraiment marquante pour moi, avant de te laisser la parole, Guillaume, sur ce match-là, c'est les changements incompréhensibles de Di Francesco. Alors, on va les rappeler. Il y a donc la sortie de Justin Kluivert et l'entrée de Luca Pellegrini, donc arrière gauche. Il y a la sortie de Chic et l'entrée de Pastore, et la sortie de Zaniolo et l'entrée de Juan Jesus. Donc en fait, les trois attaquants, donc le trio offensif, a laissé sa place à deux défenseurs et un milieu de terrain offensif, voire relayeur sur certains matchs. La simple conséquence de ça, et c'était vraiment, et j'ai regardé l'après-match sur Sky. Et justement, Paolo Condo, le célèbre journaliste, entre autres de Sky, a posé la question à Di Francesco en lui disant « Les changements ont créé un problème. L'équipe s'est recroquevillée en défense. La ligne de récupération était très très basse. Enfin, moi, j'ai des actions en tête où il y a 9 joueurs dans les 20 mètres de la Roma. Donc voilà, il n'y avait plus aucune possibilité de contre-attaque puisque tous les attaquants étaient sortis. Donc il y avait que des joueurs à vocation défensive et le pauvre Pastore devant qui devait essayer de faire le pressing. Alors déjà c'est pas son fort, mais en plus sa condition physique actuelle, c'est vraiment pas son fort. Et puis ça a permis à Cagliari de concerner un maximum de joueurs sur la construction des actions puisque évidemment il y avait plus que le pauvre Pastore seul en pointe devant et donc il suffisait de laisser deux centraux un peu physiques sur Pastore, et c'était terminé, puisqu'il n'y avait plus aucun joueur pour, évidemment, contrer, prendre de vitesse les défenseurs, etc. Et donc, ce qui devait arriver, arriva, hein, et puis, quand on connaît un peu la Roma, on sait très vite qu'une fois que le premier but, il est encaissé, le deuxième, il arrive derrière.
Évidemment. Mais, enfin, que dire de plus, t'as quasiment tout résumé. Moi, c'est vrai que les changements, je les ai pas compris, et je pense que personne les a compris, en lisant après un peu les quotidiens, hier, du coup. C'est vrai que c'était... un peu la compréhension, j'ai pas trop compris ce qu'a voulu faire Di Francesco. Son sourire après le deuxième but est assez, je sais pas comment tu interprètes toi. Moi, j'ai vu ça comme, dans le sens où, mais dis, de toute façon, ça va comme ça. Alors que pourtant, quand tu mènes 2-0 à Cagliari, c'était plutôt tranquille. Et après les changements, j'ai l'impression qu'il y a tout qui a changé. La dynamique a changé, et comme tu dis, quand on connaît la Roma, quand ils prennent un but à la 85e, Moi, je me suis dit, à mon avis, connaissant
ça
la
Roma. Ça pue la loose.
Ah oui, mais c'était sûr. Mais après, alors, pour ceux qui n'ont pas vu le deuxième de Cagliari, faut rappeler que Cagliari était quand même à 9.
Oui.
À 9, ils ont pris deux rouges pour, voilà, pour contestation dans le traditionnel. Et c'est vraiment sur le dernier ballon que la Roma prend le but.
Donc, sur un ballon envoyé en profondeur pour Marco Sau, qui aussi. Est au milieu de trois joueurs. Hein.
Incroyable.
Marco Sau, Manolas qui doit avoir une bonne trentaine d'années maintenant, hein, qui est pas le plus jeune.
Oui. Voilà, c'est... Et qui n'a pas tremblé au moment de frapper. Parce que,
exactement.
Quand tu as une balle comme ça à la dernière seconde pour égaliser un match qui était bien mal parti, il n'a pas tremblé. Mais c'est vrai
mais
que
d'ailleurs,
la Roma,
dit Francesco, sur, je me permets de te couper, sur, ouais. Parce que sur, quand Paolo Condo lui a posé la question, il n'a pas eu de réponse sur ça. Et le seul truc qu'il a dit, c'est bah, « je crois que ce soir, c'est même pas la peine de parler de tactique ». D'événements tactiques parce que ça s'est pas joué là-dessus. Moi j'ai envie de dire quand même ça s'est un peu joué là-dessus, voire beaucoup parce que le rapport de force s'est totalement inversé.
Évidemment,
à partir
ouais.
du moment où t'as fait sortir tous les joueurs qui représentaient un danger pour Cagliari. Donc c'est éminemment une erreur. Alors après il a dit qu'il prenait ses responsabilités, et c'est très bien. Tout le monde ne le fait pas dans ce cas-là, mais voilà, c'est encore un résultat catastrophique.
Après, ça fait que confirmer le, voilà, les doutes qu'on a depuis le début de saison, où il tâtonne encore beaucoup, où quand tu n'es pas dans un bon mood, familièrement parlant, bon, bah, tu rates un peu tes changements, et c'est vrai que, bah, voilà, c'était, on sait comment est Rome. J'ai lu la une du romaniste hier, voilà, qui disait, qui parlait de chien, puis c'est-à-dire, voilà.
Le massacre.
Voilà, un massacre. Donc, voilà, on va dire que de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu des médias romains, la Roma joue le Genoa dimanche, si je ne m'abuse. C'est quasiment sa dernière chance. Parce que s'il perd dimanche, ou que s'il y a match nul face à un Genoa qui a changé de coach, parce que prendre d'ailleurs arrivé, mais qui est quand même pas, dans une bonne dynamique où ils ont pas gagné depuis longtemps aussi. Si tu gagnes pas dimanche, je pense que Di Francesco, ça va devenir vraiment compliqué.
Alors, oui, certes, mais la pour fameuse qui... question, pour mettre qui?
Alors, je te dis trois noms et tu me dis oui ou non. D'accord?
Oui.
Alors, on va commencer par le nom le plus plausible, Paulo Sousa, ancien de la Fiorentina.
Oui, bah, même calibre que Di Francesco.
Oui.
Donc, je vois pas spécialement l'intérêt.
Le deuxième.
Même s'il avait réussi des choses assez séduisantes à la Fiorentina, hein. Mais entre faire des choses séduisantes à la Fiorentina et réussir à la Roma, c'est très différent quand même.
Le deuxième, je sais qu'il va plaire à beaucoup, et d'ailleurs aux amateurs de golf, Laurent Blanc.
Bah, c'est non.
c'est non. Bon, bah, c'est non. Et le dernier, donc, aux amateurs de barbe, je suis maintenant, c'est pousser la barbe.
Ouais.
C'est vrai qu'il fait très peur. Faudrait lui dire qu'il se la coupe très rapidement. C'est Vincenzo Montella.
Alors, Vincenzo Montella, pour son passé de joueur à la Roma, et même
le
petit passage qu'il avait fait, c'est oui. Sur la dynamique de la carrière de Montella, beaucoup de questions se posent. Après,
ouais.
Moi, j'ai adoré son passage à Catane. J'ai adoré son passage à la Fiorentina, mais ça remonte à il y a 3-4 ans.
Ouais. Donc, depuis, c'est vrai que c'est enchaîné Milan, Séville, où c'était quand même.
C'était compliqué, donc. Ouais. Donc voilà, donc résultat des courses, hein, pour mettre qui? Bah, il y a pas grand-chose qui fait rêver. Il y a pas d'entraîneur qui sort vraiment du lot ou qui en tout cas a un pedigree bien supérieur à Di Francesco.
Après,
ça dépend. Hein. Si les joueurs disent on en a marre de Di Francesco et voilà, la décision deviendra logique. Hein. Mais si c'est pas le cas et qu'il n'y a pas cette défiance ou ce changement d'humeur envers l'entraîneur,
on peut aussi rappeler que l'avenir de Di Francesco est quasiment lié étroitement avec l'avenir de Monchi. Ou si
c'est ce qui se dit, ouais.
S'il a un pas, parce que même la Gazzetta aujourd'hui il répétait, si Di Francesco prend la porte, Monchi il aurait pas fait
parce que ils ont partagé tous les choix du mercato, parce qu'il est lié à Di Francesco, que voilà.
Parce que Palota avait pas l'air content visiblement après le match.
Non, mais Palota ça fait 3 mois qu'il est pas content, là c'est depuis le début de la saison qu'il est pas content, donc c'est un peu. Et en même temps il a raison de pas être content, et pas seulement pour les performances ou les résultats, hein, l'histoire des blessés, on rappelle, hein, dans la semaine, Lorenzo Pellegrini a rechuté encore sur une blessure musculaire.
Ça, on va c'est... pas te dire quand, là, parce qu'on va être, on va pas repasser, on a combien, 35, 36?
Ouais, on doit être dans ces eaux-là, ouais. Enfin, selon les décomptes, en fait, t'en as qui sont à 31, 32 et d'autres qui sont à 37, 38. Incroyable. Donc, mais voilà, c'est infernal et c'est pas possible de, encore une fois, t'es obligé de jouer sans El Shaarawy, t'es obligé de jouer sans Dzeko, sans De Rossi, sans Pellegrini, sans... Voilà, enfin, c'est bien, c'est
et la chance, compliqué. Et la chance de la AS Rome, comme pour d'autres, on l'a encore souligné tout à l'heure, c'est le fait que, les équipes de rang n'avancent pas beaucoup. Ouais. Donc, la Roma est encore dans le coup.
Enfin, les choses sont dans le coup pour la quatrième place, hein. Pour le reste.
Évidemment. Ça paraît très compliqué. Moi, je mets la Juve et Naples à part.
Hein. Même l'Inter, ils sont déjà 8 points, hein, quand même, de la Roma, donc.
Ils sont encore dans le coup pour la Ligue des Champions.
Voilà. Et donc, l'occasion. M'est donné, grâce à ce lancement, ce superbe lancement, cette passe décisive, de parler de l'Inter, qui s'est incliné sur la pelouse de la Juve, c'était vendredi,
ouais.
Sur le score de 1-0.
De 1-0? Voilà. Ah oui?
Ouais, 1-0. C'était pour
voir. But de Mario Mandzukic.
Évidemment. Alors, tu veux commencer par quoi? Par l'Inter ou par la Juve?
Bah, écoute, je peux m'occuper de l'Inter, je t'occupe de la Juve.
J'aurais plutôt dit l'inverse.
T'aurais plutôt dit l'inverse?
Ouais, parce qu'en fait, j'ai beaucoup aimé le match de l'Inter.
Bah, je dois
l'avouer.
Bah, dis-moi, allez.
Surtout,
dis-moi
ce qui m'a plu, c'est le caractère affiché.
Voilà.
Pour un tel match. Et ça,
la personnalité.
C'est...
Ouais.
Exactement. Et ça, c'est un vrai progrès parce que, alors déjà, Spalletti, c'est pas forcément le roi des gros matchs. Alors, je parle de son, lors de son expérience à la Roma, hein. C'est, ça a toujours été un peu, parfois compliqué, face aux gros. Et là, j'ai trouvé une équipe qui était sûre de ses forces, avec exactement. Beaucoup de conviction, beaucoup de caractère. Ça se voyait sur le terrain par le volume de course, par la disponibilité des joueurs, par l'agressivité dans les duels, par le placement assez haut au final de l'équipe lorsqu'elle avait le ballon, donc pas de crainte particulière de contre de la Juve. Maintenant, dans ce genre de match, tu rates deux grosses occasions. C'est compliqué parce que on en parle chaque semaine. La Juve, et s'il faut subir un peu, et voilà, il y a pas de souci derrière. Par contre, quand elle aura l'occasion, elle va faire mal.
Et le changement aussi, alors, je sais pas si tu en as parlé, mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup parler. Et c'est vrai qu'il a un peu tout changé. C'est le changement Politano.
Oui. Bon, incompréhensible.
Incompréhensible parce que Politano est quasiment le meilleur.
Oui.
Il permettait de Cancelo, il jouait bas, parce que du coup, Politano le bloquait beaucoup et il lui causait pas mal de problèmes. Et quand il est sorti, Cancelo a eu une liberté devant lui, il a eu un boulevard. Et d'ailleurs, le but vient de ce côté-là. Donc c'est vrai que ce changement, personne n'a compris. Et de ce que j'ai entendu de Spalletti après le match, je lui ai expliqué qu'il voulait plus mettre le pied sur le ballon, il voulait plus dicter le jeu, et c'est pour ça qu'il a fait rentrer Valero, qui on sait est un joueur de ballon et de possession. Mais c'est vrai que ce changement a quand même tout changé. Après, comme tu as dit, moi j'ai bien aimé l'Inter, j'aime bien l'Inter des grands matchs cette saison. Ils ont été gagnés à la Lazio 3-0, à Rome ils avaient bien joué aussi. C'est une équipe vraiment qui est vraiment sur la voie de la guérison, dans le sens où ils s'imposent, ils viennent avec leur jeu, avec leur style, ils sont sûrs de leurs moyens. Alors faut faire attention à pas qu'ils transforment cette sûreté en présomption. Voilà, faut pas que ce soit prétentieux. Mais moi, j'ai bien aimé le fait qu'ils arrivent à Turin en disant bon, on va jouer notre jeu. Et voilà, si Gallardini, je crois qu'il frappe sur le poteau.
Oui.
Voilà, il la met dedans. Bon, ça change quasiment tout. Après, voilà, j'ai l'impression que l'Inter, j'ai lu ça aussi dans les journaux, que l'Inter a joué à 110% et que la Juve finalement joue à 70%.
Ah ouais.
Et c'est vrai que d'un côté, la Juve a pas non plus, ils ont pas bien joué. Pas dire qu'il va faire un bon match.
Non, mais je trouve que parfois ça peut être une lecture simpliste dans le sens où si la Juve pendant une partie du match était à 70%, c'est peut-être parce que l'Inter de 110% les gênait beaucoup. Et c'est
aussi
pas forcément volontaire d'avoir été à 70%, c'est juste qu'ils étaient vraiment gênés par la performance de l'Inter et que ils ont pas pu mettre en place certaines particularités de leur jeu.
Ils ont beaucoup de mal dans les sorties de balle. Hein.
Ouais.
Il y a beaucoup d'erreurs.
Pjanic a fait un match vraiment assez médiocre.
Ouais, et par contre, alors un match énorme signé Giorgio Chiellini,
ouais.
On peut souligner, qui a encore été très bon. Oui, comme dirait l'ami Philippe Genin. Mais c'est vrai que Chiellini a été énorme. Alors, j'ai pas vu la note qu'il a pris dans les journaux, mais c'est vrai qu'il a fait un match splendide. D'ailleurs, je crois qu'il a été l'homme du match. Ouais. Ronaldo, par contre, on l'a moins vu.
Oui.
Il était plutôt absent sur ce match-là. Après, Cancelo, bon, voilà, malheureusement, pour l'Inter, le changement Politano a tout changé. C'est vrai que quand tu donnes à Cancelo la liberté de s'exprimer, de fixer sur les avis, bah voilà, ça pardonne pas. Et la Juve n'a pas eu beaucoup d'occasions, hein. Ils ont eu 2-3 maximum. Mais voilà, il en suffit d'une. Et puis après, bah voilà, tout le boulot que t'as fait est vain. Donc c'est vrai que c'est dommage pour l'Inter qui aurait certainement un match nul. Mais
Cancelo voilà. Intéressant sur le côté gauche aussi. Hein.
Exactement. Mais Cancelo, je crois que tu peux mettre partout.
Ouais.
Il sait tout faire. Donc c'est assez questionnel. D'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui que le CIES, je pense que tu connais cet organisme, qui a fait un classement par rapport aux joueurs qui ont pris le plus de valeur depuis le début de la saison. Et je crois que Cancelo est sur le podium.
D'accord.
Donc, pour te dire que Cancelo, depuis septembre, est vraiment, bah, d'ailleurs, nous on le sait et beaucoup le voient, mais c'est vrai qu'il est en train de prendre une dimension quand même assez incroyable. Parce que au-delà de l'achat de Ronaldo, on peut clairement dire que Cancelo, c'est quasiment la deuxième meilleure recrue de la Juve. Hein,
ce qui concerne les joueurs qui perdent le plus, Milinkovic-Savic, il est où?
C'est pour ta transition que tu me fais ça?
Non, mais je cherchais un joueur, en fait, qui avait beaucoup de mal cette saison et qui était très coté la saison dernière.
Oui. Oui, bah, il a fait un peu comme Belotti, tu te rappelles un peu la saison où il était parti pour 100 millions. Voilà, c'est un peu pareil. Mais c'est vrai que Cancelo est quand même décisif quasiment à chaque match, hein, avec la Juve. Hein, donc,
si tu dois ressortir trois joueurs côté Juve, tu me dis Cancelo.
Je dis Chiellini, Cancelo et Mandzukic.
Voilà. Et puis, moi, je mets un petit focus quand même aussi sur Betancourt, qui a encore été.
Oui.
Et côté Inter. Été très bon. Côté Inter,
Politano,
ça c'est sûr. Skriniar, j'ai bien aimé.
Oui.
Et puis pas trop Brozovic, pas forcément sur ce match-là son meilleur match.
Bon, Brozovic.
Moi, il a été bon, mais c'est pas forcément son meilleur match, j'ai trouvé. Perisic, c'est toujours compliqué. Hein,
Perisic, c'est très compliqué. Perisic. Est...
Ouais, c'est.
Et pourtant, il n'y a pas de passage sur le banc, toujours titulaire.
Il le sera sans doute encore demain. Enfin, c'est Inter joue mercredi, non?
Ouais.
Mardi ou mercredi, je sais plus.
Je crois que c'est Spalletti est en conf aujourd'hui.
Donc c'est demain.
Du coup, c'est mardi.
Puisqu'on enregistre, il est lundi 17h23, vous savez tout.
Exactement.
Mais il sera encore titulaire contre le PSV sans doute en Ligue des Champions.
Et c'était quand même un beau match, celui de l'Inter.
Oui, c'était évidemment un très bon match. Et puis Mario Mandzukic, hein, quand même, on peut s'arrêter deux minutes sur Mandzukic. Voilà, c'est pas le joueur le plus élégant, c'est pas. Il n'y a pas de faire trois passements de jambes, des fois il rate des contrôles, etc. Mais alors par contre, dans la grinta, devant le but, dans tout ce qu'il t'apporte, c'est collectivement, dans l'état d'esprit, dans le fait d'harceler sans arrêt les défenseurs, qui n'ont jamais une minute de repos avec lui, capable de multiplier les appels, un coffre énorme, enfin, une générosité incroyable.
Et ses cours défensifs sont hallucinantes. Hein. Moi, j'en vois 2-3 où tu vois tous les supporters qui se lèvent et qui tu vois qui sont portés par lui, c'est vraiment.
Et puis lui en plus voilà, c'est plus il va dans ce côté-là, dans le côté bataille, etc., plus il arrive à
exactement. Plus il s'exalte.
Ouais, voilà, exactement, c'est ça, je cherchais le mot. Plus ses qualités sont exaltées, plus ses qualités sont mises en avant et plus il devient incontrôlable en fait. Pour l'adversaire, c'est vraiment un joueur que beaucoup d'entraîneurs aimeraient avoir, je pense, dans leur équipe.
Ah oui, ça c'est sûr.
On va parler du Napoli maintenant.
Oui. On nous a reproché de pas en parler.
Alors on nous a reproché. Citons son nom.
Baldi.
Baldi.
Monsieur Baldi.
Voilà, exactement. Baldi au rapport. donc nous allons parler du Napoli. Alors moi j'ai vu que la première mi-temps contre Frosinone. Je m'excuse Monsieur Baldi, hein, je n'ai vu que la première mi-temps. Très honnêtement, c'était il y avait une telle différence, un tel écart de niveau que bon, c'était pas forcément le match le plus intéressant à suivre pour le Napoli. Ce qu'on peut retenir, je me suis mis 3 points à retenir sur ce match-là. Le retour de Goulam.
Ah oui, très
c'est vraiment
important
pour le. Même si Mario Rui a fait un bon intérim cette saison, hein. Mais.
Ouais, mais et d'ailleurs, il devrait encore être titulaire face à Liverpool mercredi. Mario Rui.
Oui, parce que de toute façon, Goulam peut pas enchaîner.
Exactement.
Deux matchs en si peu de temps, lui qui.
Et d'ailleurs, je me demande s'il est dans la liste avec des champions, hein, Goulam. Faudrait que je vérifie, mais je suis même pas sûr que Goulam soit inscrit dans la liste UEFA.
Merci de me poser ce genre de col.
Ça a vérifié. Est-ce que si je meuble, tu as le temps de...
Tu peux. Alors, en plus, tu as un très bon meuble.
Bah oui, parce que moi, j'ai parlé d'une, d'un sujet qui est cher à l'ami Baldi. C'est Adam Ounas. Je sais que lui est très, très attaché à Ounas, qu'il aimerait même voir peut-être titulaire à la place de Calderon, qui n'est pas forcément dans son cœur. Et c'est vrai qu'Ounas a fait un bon match, il marque un superbe but, une grosse frappe des 30 mètres. Et c'est vrai que bon, Calderon, depuis le début de la saison, ne marque pas. C'est vrai que ça devient compliqué. Au-delà du fait que voilà, il connaît parfaitement les mécanismes du Napoli, voilà, ses coéquipiers l'adorent, ils le connaissent les yeux fermés. Bon, ça c'est un fait, mais c'est vrai que son manque de réalisation, le fait qu'il ne soit pas assez décisif, joue. Et c'est vrai qu'Ounas, bon, apporte aussi cette fraîcheur sur son côté. Il est explosif. Et c'est vrai que ça peut changer de Calderon qui, alors un contre un, n'est pas non plus le plus grand dribbleur de la planète. Donc, c'est vrai qu'Ounas, petit à petit, quand on lui donne du temps de jeu, bah, il arrive à s'imposer. Et c'est vrai que, voilà, je sais que mon ami Baldi est très attaché à ce sujet. Donc, c'est vrai qu'Ounas était très bon. Et pour revenir à Goulam, c'est très important qu'il soit revenu. Il revient d'une longue blessure. C'était un long tunnel pour lui. Et c'est vrai que voilà, on a retrouvé sa patte gauche. Malgré, comme tu l'as dit, le fait que Mario Rui a fait une très belle intérim, je pense que Goulam à 100%, c'est quand même autre chose. Oui. Et ce sera très important pour le Napoli de le récupérer d'ici, voilà, à 100% d'ici, allez, on va dire, d'ici quelques semaines. Est-ce que j'ai bien meublé?
Alors, c'était déjà parfait. Et ensuite, tu as très bien meublé puisque Goulam fait partie de la liste. Le seul Napolitain non inscrit en Ligue des Champions étant Younes, qui lui aussi a été gravement blessé au genou de mémoire, et donc qui lui n'est pas inscrit sur la liste Ligue des Champions. Et par contre, j'avais lu une description absolument magnifique de Calderon. Elle nous vient de Stanislas Touchot, donc qui est journaliste AFP détaché en Italie, et qui avait fait la meilleure description, je trouve, pour Calderon, qui était le meilleur joueur du monde au second poteau. Et ça, je trouve que ça résume parfaitement les qualités de Calderon, qui a un placement incroyable sur les centres ou les ouvertures au second poteau. Et ça, c'est vrai que Calderon, c'est sa qualité principale. Mais aujourd'hui, c'est peut-être un peu insuffisant.
Est-ce que tu penses que Ounas pourrait s'imposer en tant que titulaire à la place de Calderon?
Oh là, monsieur Maillard Passini, pas de précipitation.
Je te demande, je n'ai pas dit que c'était.
Il en a les capacités. Maintenant, si Ancelotti reste dans une logique à deux attaquants, ça va lui demander beaucoup de travail défensif. Chose qu'il ne faisait pas toujours à Bordeaux. Donc, à voir comment il répond aux exigences d'Ancelotti là-dedans, parce que Calderon, lui, l'apporte ça, apporte cet équilibre. Donc, si Ounas parvient à apporter ce même équilibre et qu'en même temps, il se montre plus décisif et en tout cas plus imprévisible dans le jeu que Calderon, alors il aura une chance de s'imposer. Pour le moment, ça me paraît un peu tôt.
Ok. Bon, bah, tu m'as bien répondu.
Et puis, dernier point, encore une gestion hyper tranquille hein, du temps de jeu de chacun par Ancelotti. Voilà, cette fois-ci, c'est Milik titulaire, Mertens sur le banc. On a même eu, Lupetto, c'est ça le défenseur central? Je suis en train de t'opposer une colle, j'ai l'impression.
Tu me mets dans l'embarras, mais quand tu m'as dit
Lupetto, non, c'est pas ça?
Non, Luperto.
Luperto, ah, il manque un R. Lupetto, c'est lié à la Roma, en fait, je pense.
Ah oui, ou à Pinocchio, à voir. Lupetto, voilà. Lupetto.
Luperto, exactement, Luper. Qui a joué, donc Goulam qui est revenu. Meret, qui a fait aussi un match dans les buts avec Ospina qui était laissé sur le banc, Zielinski qui a joué, et puis évidemment sur le banc, hein, on avait des joueurs comme Mario Rui, comme Calderon, comme Fabian Ruiz, comme Mertens, comme Maximovic, comme Ospina, enfin voilà. La gestion tranquille de Ancelotti continue, il gère le temps de jeu parfaitement.
Alors, l'équipe concernée. Ouais.
Voilà, tout le monde est concerné. L'optique, c'est d'avoir des joueurs en forme, évidemment, pour la deuxième partie de saison et aussi en Ligue des Champions, s'ils parviennent à passer ce tour de Ligue des Champions. On sait que ce sera pas facile et que le mieux, ce serait d'obtenir un résultat à Liverpool. Et Dieu sait que ça ne sera pas simple. Ouais. Et puis, le dernier match qu'on va évoquer, Guillaume, c'est Lazio-Samp. avec encore une fois un scénario
improbable.
Voilà, proche du burlesque. Hein. Donc la Lazio qui perd encore 2 points, tu l'as dit tout à l'heure, hein, la Roma et la Lazio perdent chaque semaine des points importants dans l'optique de se qualifier pour la Ligue des Champions.
Est-ce qu'on commencerait pas par la célébration de Saponara qui a fini en slip.
Explique-nous.
Et ben, comment expliquer alors? Pour rappel, la Lazio m'a marqué la Lazio pas d'un zéro. Il menait 2-1 dans le traditionnel, Immobile marque à 95e. 10 secondes après son engagement, bon, long ballon de la Sampdoria, Saponara égalise un magnifique geste, un magnifique lob que je conseille à tout le monde de
sorte
voir.
Sorte de talonnade aérienne.
Exactement, on est le pigeon un peu à la Ibra. Bon voilà, il part courir sous la courva de ses supporters, il saute, il s'accroche à la rambarde des supporters. Enfin, c'est tifosi, lui enlève son short et lui enlève aussi bon, le slip.
Voilà, c'est ça.
Bon, il y a des images un peu sombres où des mains traînent sur le fessier de Saponara. Le postérieur de Saponara. Ils sont très gênantes d'ailleurs.
Oui, exactement.
Donc voilà, je tenais à souligner ce point, mais je trouvais voilà, comme les photos un peu tournées partout, avec cette main baladeuse sur les fesses de Saponara, comme quoi le football peut parfois provoquer des réactions curieuses.
Un peu trollé.
Exactement.
Moi, je souhaitais revenir sur la VAR. Guillaume, si on parlait de la VAR.
On peut parler de la VAR, oui.
Hein, que penses-tu du penalty accordé à la Lazio?
Écoute, honnêtement, alors, je sais que tu es content, parce que, pour être honnête, je faisais mon anniversaire samedi soir, du coup, on était plusieurs. On était une dizaine.
Et tu t'es retrouvé aussi avec une main sur les fesses? Enfin, non, ça ne me regarde pas.
Du tout. Et pour appuyer ton propos, c'est vrai que toi, on était à une dizaine, et c'est vrai qu'on ne s'est pas trouvé d'accord sur la main.
Bien sûr.
Je pense que les arbitres t'ont plu, parce que vu le temps que ça a pris, je pense que lui non plus n'était pas sûr. Pour moi, il y a pénalty. Parce que je vois ce geste. Alors, la main n'est pas écartée du corps, mais je vois le geste où il veut vraiment renvoyer le ballon avec son bras gauche. Bon, pour moi, il y a pénalty. Par exemple, mon grand-père, il n'y a pas pénalty. Donc, tu vois, je pense que les arbitres aussi, honnêtement, ils étaient un peu perdus. Et c'est l'argument que je peux recevoir des anti-VAR comme toi. C'est vrai que la question de l'interprétation est propre à chacun. Donc malheureusement sur 5 arbitres, tu en auras peut-être 3 qui te diront penalty et 2 qui te diront il y avait penalty. Donc c'est vrai que cet argument-là, je peux le recevoir. Après écoute, moi la VAR, je sais qu'elle est là pour éviter les grosses erreurs. Inzaghi qui se plaint souvent à l'arbitrage. Je pense que ce coup-ci, il aura pas grand-chose à dire, même si je crois qu'en conférence d'après-match, il a dit que le match aurait pu être la VAR aurait pu être sifflée avant. Avant le coup. Voilà.
Rappelons que le but de la Samp intervient à la 99e minute de mémoire.
Oui.
On a des matchs qui sont quand même allés, le match de Sassuolo est allé jusqu'à la 98e minute.
Et celui de la Roma.
96e et là 99e, donc écoute. Oui.
Et d'ailleurs, pour revenir sur le match, enfin, même sur les faits extra-sportifs, il y a quand même eu une banderole très dure contre Milinkovic.
Oui.
En dehors du stade, hein, qui disait Milinkovic, Savic, Zingaro, voilà, ça veut dire un peu, voilà, étranger, gitan.
Oui, c'est plus gitan qu'étranger, hein. Oui, tzigane en français, on peut le dire par tzigane.
Oui, voilà. Et c'est vrai que Milinkovic.
Disons que c'est une insulte que des Italiens utilisent beaucoup pour des gens qui viennent de l'Est. On se souvient Ibrahimovic.
Ibrahimovic, tout le temps.
Voilà,
tout
Ibrahimovic avait le droit à ça, à des chants dans certains stades italiens.
Exactement.
Voilà.
C'est pour dire
évidemment
que
pas très glorieux. Hein.
Non, évidemment. Mais c'est vrai que tout ça pour dire qu'au-delà de cette banderole infecte, c'est vrai que le cas Milinkovic-Savic, ça commence à poser problème dans le sens où, alors, je sais pas ce qu'on a pensé, mais c'est vrai qu'on ne le retrouve toujours pas.
Non, toujours pas.
Dans sa prestation, dans ce qu'il apporte.
Même dans ce qu'il dégage, je trouve, il y a quelque chose de très négatif.
Exactement.
Dans son attitude sur le terrain et on ne le sent pas du tout concentré comme la saison dernière où il avait faim, où on sentait qu'il voulait porter la Lazio, etc. Et là, cette saison, beaucoup plus de mal. On peut parler aussi du cas Luis Alberto, hein, qui n'est toujours pas réglé non plus, qui commence pas mal de matchs sur le banc.
Non. Après, la Lazio, elle fait aussi un gros match, hein, dans le sens où je crois qu'ils ont fait 24 frappes.
Oui.
Enfin, ils ont beaucoup dominé. Hein,
et c'est l'occasion Samp. Peut-être de faire un petit mot sur Odero, le gardien de la Samp, oui. Que je trouve vraiment très bon depuis le début de la saison. Rappelons que c'est un gardien qui est prêté par la Juve, qui est déjà bien fourni au poste de gardien, parce qu'ils ont déjà Chesney et Mattia Perin. Donc il y a peu de chances qu'il ait un avenir du côté de la Juve, et la Samp serait bien inspirée de tout faire pour le conserver à l'issue de la saison, parce que c'est vraiment un élément important du début de saison. On hésite des fois entre bon début de saison et parfois c'est un peu comme Sassuolo, des fois un peu naïf hein, sur certaines ouais. phases de jeu.
Bon, on a pas mal de bons gardiens, hein, même CP à Parme,
oui.
L'ancien Naples qui fait une bonne saison. Alors, on a Donnarumma a fait deux gros arrêts hier, même si dans ses sorties sur les gardiens ça reste compliqué. C'est vrai que niveau gardien, bon, cette saison on n'est pas.
Moi, bon, Lafont a fait un match pas vilain à Sassuolo.
Lafont a fait un bon match. Moi j'ai un fait pour Skorupski. Ouais. Que je trouve vraiment pas mal.
Parti dans une saison galère à Bologne.
Oui, évidemment, mais tu vois, je pense que c'est quand même un bon gardien. Ce que tu en penses, toi qui l'as connu à Rome aussi.
Oui.
Mais je pense vraiment que ça peut être un bon gardien en perspective. Mais c'est vrai que tu as raison de souligner Odero qui a fait un bon match. Et voilà, 24 tirs pour la Lazio, ils ont beaucoup d'occasions. Moi, je me suis demandé comment ils avaient fait à pas marquer plus tôt. Ils avaient quand même des énormes occasions. Donc voilà, c'est un 2-2 un peu menteur. Mais voilà, la Samp, la force de caractère pour trouver un but à la dernière seconde à 10. Donc c'était un point vital pour la Samp. Et la Lazio qui perd encore 2 points, mais encore une fois, comme les autres, comme pour la Roma, comme pour Milan, comme pour l'Inter. Voilà, ça avance pas beaucoup. Et du coup, bon, bah voilà, tout le monde a sa chance. Tout le monde est toujours là. Donc, il a la Lazio qui se déplace. Alors attends, j'ai un trou. Il se déplace à Bergame contre l'Atalanta ce week-end, qui revient aussi dans le coup. Donc ça promet. Alors je sais pas si tu vas nous bien le vendre tout à l'heure avant de lâcher le podcast, mais je pense que ce petit Atalanta Lazio pourrait être sympa.
Il pourrait être sympa, et puisque tu parlais de la Lazio aurait dû marquer des buts avant, petit point quand même sur les XG, les expected goals.
Ouais.
Sur ce match, on est à 3,45 pour la Lazio, ce qui est quand même assez costaud. C'est une des plus grosses moyennes hein, depuis le début de la saison en Serie A, et seulement à 0,67 pour la Sampdoria. Donc le résultat attendu est pas vraiment celui qui s'est déroulé et celui qui a eu lieu sur la pelouse de l'Olympico, puisque la Lazio aurait dû s'imposer assez facilement, en tout cas sur ce match. Une dernière chose sur la Sampdoria, Quagliarella qui a encore marqué. Et rappelons, ça va être un des enjeux des prochaines semaines de la Samp, qu'il est en fin de contrat en juin. Et donc, va se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de Quagliarella, qui est le capitaine. Alors, j'imagine que la Samp aimerait bien continuer avec lui, hein, évidemment. Mais Quagliarella, que va-t-il décider, lui, de son côté? Est-ce qu'il va profiter de ces derniers mois très intéressants qu'il vient de faire pour essayer d'accrocher une dernière fois un plus gros club? On sait qu'il y a des clubs qui s'intéressent un peu à lui, notamment les 2000 années, qui s'intéressent à lui. Il a quand même 35 ans, hein, bientôt 36 ans, donc ça peut être son dernier gros contrat dans un club historique pour tenter de performer une dernière fois au plus haut niveau. Donc la question va se poser pour la Samp, mais il serait bien inspiré évidemment de le garder.
Ouais. Ça serait une grosse perte pour la Samp, comme tu as dit, capitaine, buteur. La saison dernière, il a fait une saison énorme. Donc c'est vrai que c'est une grosse perte, et pour remplacer Quagliarella qui est à son âge, mais qui connaît la Serie A comme sa poche, et qui marque toujours autant.
Voilà, c'est ça, qui marque beaucoup de buts, qui fait aussi beaucoup de passes.
Évidemment, comme les buteurs italiens qu'on a toujours connus, comme les Di Natale, comme Pellissier à Vérone, qui avec le pivot qui marque aussi ses buts. C'est vrai que Quagliarella est encore vraiment au haut niveau, et c'est vrai que ce serait une grosse perte pour l'ensemble de séparer de Quagliarella. Comme tu l'as dit, il est en fin de contrat, et c'est vrai que ça pourrait être un sujet assez épineux dans les prochains mois.
On rappelle, hein, 15 journées, 8 buts, 5 passes décisives quand même, Quagliarella.
Eh oui.
C'est quand même pas vilain du tout. On en a fini pour ce 19e épisode, on a fait plus court que d'habitude. Nous en sommes qu'à 56 minutes, donc vous pouvez nous féliciter d'avoir fait plus court et de vous sauver quelques minutes. On va présenter le programme de la semaine prochaine. Alors déjà, on peut aussi quand même préciser avant le programme de la 16e journée qu'il y a de la Ligue des Champions et de l'Europa League, n'oublions pas la petite Coupe d'Europe, au programme aussi cette semaine. Je te détaille le programme, Guillaume.
Vas-y, mais je suis assis, j'attends.
C'est bien d'être assis, c'est mieux. Alors, nous avons donc Inter PSV, qui est donc mardi à 21h.
Mais alors, du coup, alors, faisons une pause après chaque match, qu'on a un peu le temps. Alors, allez. Inter PSV, est-ce qu'on regarde ce match-là ou est-ce qu'on regarde sur deux écrans Barça-Tottenham?
Non, on regarde pas sur deux écrans. On regarde, ou à la limite, on regarde sur deux écrans. Mais on met Liverpool-Naples en face. À 21h aussi.
Aïe, 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 c'est en même temps en plus.
Et bien sûr que c'est en même temps.
Aïe, 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 aïe.
Donc c'est la formule tout compris, hein, avec, avec l'hamburger XXL. Et l'Inter sur un écran et Naples sur l'autre, puisqu'il y a Inter PSV et Liverpool-Naples mardi soir, les deux étant à 21h. Naples, hein, on rappelle la situation au classement. Ils sont en tête avec 9 points, mais le problème c'est que le PSG est à 8 et Liverpool est à 6. Et qu'en gros, pour faire simple, parce qu'on va pas détailler tous les scénarios, compliqué. Mais le plus simple, c'est de prendre un point à Liverpool. Voilà. Le plus simple, c'est de prendre au moins un point à Liverpool, voire de gagner. Hein. Mais au moins, tu comptes pas sur les autres comme ça, les autres étant le PSG. T'es pas dépendant du résultat du Paris Saint-Germain. Et puis, là, par contre, pour l'Inter, bah là, tu dépends des autres. Ah, donc, pour le coup, il faut que l'équipe, a priori B, que va aligner le Barça, battre Tottenham, et dans le même temps, il faudra que l'Inter prenne au moins un point face au PSV, ou alors si Tottenham ne prend qu'un point à Barcelone et que l'Inter bat le PSV, ce sera suffisant aussi. Autre match, mercredi, avec les deux équipes qui sont, elles, déjà qualifiées pour le coup, donc c'est un peu un sans pression, 18h55, Victoria Pilsen contre la Roma. Et puis, il y aura à 21h les jeunes garçons, les Young Boys de Berne contre la Juve, qui est déjà évidemment qualifiée. La Roma étant sûre d'être deuxième, il n'y a vraiment aucun enjeu. Il se pourrait qu'il y ait un peu de...
C'est un peu un match en Berne.
Voilà. Merci Jean. C'était très intéressant. Hein.
Facile pour
on va continuer deux minutes, hein, histoire de pas lâcher ce podcast sur ce jeu de mots assez lamentable. Hein. Je n'ai pas peur de le dire.
Je me suis excusé.
Oui, oui, tu peux t'excuser, platement.
Bah, je demande pardon.
Voilà.
À notre public.
Et puis, on va parler aussi de l'Europa League, du coup, avec le Milan et la Lazio qui sont concernés par les matchs cette semaine. La Lazio reçoit l'Eintracht Francfort. T'as vu, c'est beau. Hein, j'ai fait allemand LV1, on le sent quand même dans l'accent sur l'Eintracht Francfort.
C'est vrai. C'est vrai.
Les deux équipes sont qualifiées, les deux équipes ont les positions figées. Le club allemand sera forcément premier, le club italien sera forcément deuxième. Donc on risque d'avoir une belle opposition entre deux équipes bis, hein, sur ce match-là. Ouais. Il y a de fortes chances, et j'ai entendu ton troll sur l'Olympique de Marseille. Ça ne va pas plaire à nos auditeurs marseillais, je le sais.
Que j'apprécie beaucoup.
Voilà, donc tu t'excuses du coup une deuxième fois.
Non, mais j'ai beaucoup d'amis marseillais, donc je les salue volontiers.
Oui, mais tu t'excuses aussi du coup.
Oui, bah je m'excuse, voilà. Pardon.
Décidément, ça fait beaucoup d'excuses à donner ce soir.
C'est vrai, c'est vrai.
Et puis à 21h, Olympiakos AC Milan.
Ouais, moins drôle.
Ah, moins drôle, pourquoi moins drôle?
Bah, moins drôle dans le sens où Milan joue à qualif quand même.
Et oui, on rappelle, si l'Olympiakos gagne par plus de 2 buts d'écart, c'est ça? Ou 3 buts d'écart? 2 buts d'écart.
2 buts, ouais.
Et ben, il passera devant l'AC Milan. Donc là, pas de bêtises, ouais. Hein, du côté de la Grèce.
Et pas de bêtises, parce que le bêtise en même temps aussi.
Décidément, tu es en très grande forme. Et je suis absolument catastrophé. Parce que j'imagine le visage des gens qui vont entendre ça. Et qui vont être aussi effondrés.
Ou rire à gorge déployée. Ça dépend.
Oui.
D'ailleurs, n'hésitez pas à faire des retours sur ces magnifiques blagues. Moi, je les attends. Hein. Parce que soit je peux continuer, ou si les gens réfutent, je m'arrêterai dans les prochains podcasts.
Voilà, donc réfutez, hein, s'il vous plaît. Hein, c'est pour l'honneur de l'amitié franco-italienne. Merci pour vous. Et puis donc, on va passer au programme de la prochaine journée. Ah. Avec un choc, puisqu'on en a un par journée encore jusqu'à la fin de l'année, ça sera le derby de Turin, Torino-Juve, samedi à 20h30. Et avant, la journée s'ouvrira avec Inter-Udinese à 18h. Le dimanche, on a donc... la journée est encore plus éclatée que les autres fois, c'est catastrophique. Dimanche à 12h30, nous avons donc Spal Kievo, hein, pour le marché asiatique, tout ça, tout ça. Ça va être un match très intéressant pour les Asiatiques qui vont regarder ça en prime time le soir. Voilà, ça risque d'être passionnant de voir Stepinski face à la défense de la Spal. C'est évidemment très intéressant pour le marché asiatique. Notre fantastique multiplex de trois matchs, Fiorentina-Empoli, Frosinone et Sassuolo, Sampdoria-Parme pour ces trois matchs. Ensuite, à 18h, Cagliari-Napoli. Et derrière, Roma-Genoa, 20h30. Et puis, la Ligue a innové. Hein, on va se mettre un petit match le lundi soir. Alors ça, c'est plutôt courant. 20h30, Atalanta-Lazio. Le fameux match que tu veux voir.
Ah oui.
Et puis là, on s'est dit, bah pourquoi on n'en mettrait pas aussi mardi de match?
Non, je sais pas
pourquoi. Et donc, mardi, Bologne, AC Milan. Voilà.
Mais pourquoi ça, mardi?
Ah bah pourquoi mardi?
Je sais pas.
Bah c'est pour le marché, le marché.
Ah ouais, je sais pas quel marché, mais ouais, non. Parce que faut se dire que Milan, du coup, la dernière journée de Europa League contre Dudelange, donc ils avaient joué le jeudi soir, c'était à 19h, et du coup, ils avaient enchaîné le dimanche midi contre Parme. Donc ils avaient eu, je crois, un peu plus de 60 heures pour récupérer.
Oui, enfin. Et donc là, ils vont jouer jeudi soir. Tu jouais contre des plombiers, des huissiers et des concessionnaires auto.
Oui, mais alors. Oui, mais bon, entre jeudi soir et dimanche, voilà, il y a un peu plus de 60 heures. Et dis-toi que là, donc ils jouent jeudi soir contre l'Olympiakos, donc en Grèce, et du coup ils vont jouer le mardi, quasiment une semaine après.
Et après donc, ils rejouent le samedi.
Ah oui, bon.
Puisque là, on aura droit à un multiplex un peu plus fourni, mais on y reviendra un peu.
Ah, parce qu'on va arriver, ouais, on va arriver sur Noël, du coup ça
et
va être
bien
plus...
sûr.
Ah, ouais.
Avec bon, Bobo Natal, et j'espère que tu as été sage d'ailleurs cette année.
J'espère. Ouais. J'espère. Je pense. Je pense.
Bah, je sais pas. Quand je vois tes blagues récemment là, je me dis que tu vas peut-être faire l'impasse sur Noël cette année. Hein. Enfin bref. On va conclure là-dessus. Hein. On va s'arrêter là. On va rappeler qu'on est disponible et que vous pouvez nous écouter sur Twitter, Facebook, SoundCloud, iTunes, Google Podcast, Spotify et Deezer. Rien que ça, ça fait quand même déjà pas mal de plateformes où vous pouvez nous retrouver. N'hésitez pas à liker, à nous retweeter, à commenter, à nous mettre les 5 étoiles sur iTunes, etc., etc., pour faire connaître le podcast au maximum de personnes. Eh bien, Guillaume, il me reste à te remercier pour tes éclairages et non pas pour tes blagues. Et puis, on
Merci
se dit
toi.
Donc à lundi prochain pour le débrief de la 16e journée de Serie A et aussi de la Coupe d'Europe. Salut à tous et bonne semaine.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.